Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Canu avec Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours Radio Canu, le 102.2, avec maintenant Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et on va commencer avec les traditionnelles annonces.
Allez,
si je ne me trompe.
Les annonces, eh bien, il y en a quelques-unes pour ce soir. Je ne m'entends pas des masses, mais enfin, ça devrait passer, je pense. Donc, ce jeudi 23 février, eh bien, on vous invite, comme on le fait assez régulièrement pendant Idée Noire, d'écouter Mégaphone sur Radio Canu, évidemment. C'est de les deuxièmes, quatrième et cinquième jeudi du mois dans l'émission La Petite Cuillère. C'est à partir de 20h jusqu'à 21h. Alors pour vous expliquer assez rapidement, c'est une diffusion de messages aux prisonnières et prisonniers de la région. Vous avez toutes les explications évidemment que vous avez à lire sur Rebellion, sur l'internet évidemment. Comment se servir donc de ce communicant précieux pour ceux et celles qui sont privés de liberté. Ce jeudi également, eh bien, c'est un appel à 14h des Pandards, c'est la ruche autrement dit, une association de quartier, pas morte, qui nous et vous invite à une contre-visite de l'espace vert qu'elle occupait, cette association, il y a encore quelques mois, pour des activités de jardinage, entre autres. Cet espace, c'est M. Collomb qui s'en est saisi et qui spécule sur le patrimoine. Encore un mot qu'on n'aime pas tellement, nous, anarchistes, patrie et moine. patrimoine.
Comment se parle les jeux de mots là ?
Je m'excuse. Donc le patrimoine lyonnais, hein, Monsieur Collomb se l'est mis dans la poche, privant donc les Lyonnais et Lyonnaises du premier arrondissement d'initiatives jardinières et voire plus. Vous pouvez toujours aller voir sur Rebellion évidemment plus amples informations à ce sujet. Donc je répète, hein, c'est ce jeudi 23 à 14h hein, pour cette contre-visite. Il y a également vendredi 24 février un rendez-vous Place des Terreaux, c'est à 20h, pour un deuxième goûter anniversaire. Je dirais plutôt que ça c'est un souper hein, à ce score-là, mais enfin bon, ça sera un goûter, allons-y comme ça. Donc ce deuxième anniversaire sur l'état d'urgence prolongé par l'ENS, je crois que c'est les écoles normales supérieures, hein, c'est ça, hein, qui font donc leur... C'est un collectif hein, d'ENS hein, qui est né à Paris, il me semble. Donc ce rendez-vous se veut festif, ironique, joyeux et pacifique. Et j'ajouterais pâtissier, donc, puisqu'il y aura des gâteaux, des bonbons, enfin tout un tas de choses. À lire également pour plus amples renseignements sur Rebellion, qui rappelle effectivement les méfaits de l'état d'urgence. Voilà, je suis... Ok, sur le.
En espérant qu'il y ait ce coup-ci pas de petit cercueil à balancer dans la Saône, quoi. Ouais, cercueil bleu, blanc, rouge. Mais bon, oui. Voilà.
C'était vraiment pourri.
C'est revenu un peu le couteau dans la plaie, mais enfin, bon, allez.
C'est pas grave.
On est là pour ça. Aussi.
Il y a d'autres annonces ou pas ?
Oui, je crois qu'on a une annonce, nous aussi, d'un événement ce vendredi. Vas-y, je te que tu devais partir et que t'es resté.
Non, mais
si
du coup,
tu veux avoir ton mot à dire.
Non, mais c'était juste voilà.
Ne vous disputez pas.
Pour ce vendredi soir, du coup, à la Plume Noire. Ouverture à 18h30 et puis projection aux alentours de 19h. Donc, c'est une petite soirée du coup sur la thématique des travailleurs et travailleuses sans papiers. Donc, voilà, c'est quelle lutte et quelle solidarité avec ces travailleurs et travailleuses. Avec la projection d'un documentaire donc, qui s'appelle Clandestin, je ne me rappelle plus la suite du titre.
Une autre vie que les vôtres.
Une autre vie que les vôtres, voilà. Du coup, on vous invite donc ça. C'est une petite soirée organisée du coup par la commission syndicale et la commission antiraciste de la coordination des groupes anarchistes Lyon. Voilà, pour vous expliquer un petit peu, hein, vous savez peut-être déjà, mais que du coup, on fonctionne par front de lutte bien ciblé. Et que du coup, par front de lutte, il y a une commission qui est ouverte aux non-adhérents et non-adhérentes, voilà, aux sympathisants et sympathisantes. Voilà, vous pouvez vous investir dans la lutte avec nous. Et donc là, voilà, c'est une activité qui a émergé un petit peu de cette commission-là, enfin des deux commissions en tout cas. Et donc on vous donne rendez-vous du coup ce vendredi à partir de 18h30 pour une proche aux alentours de 19h, voilà. Et après une petite discussion du coup sur les solidarités qui peuvent être mises en place avec les travailleurs et travailleuses sans papier. Donc voilà, donc ça se passe ce vendredi. Puis il y a aussi du coup, c'est du côté de Montpellier.
Ouais, en fait j'allais le dire aussi, du coup on a deux autres annonces. Il y a à Montpellier un concert de soutien à La Plume Noire, donc qui aura lieu au Royal Occupé. C'est un grand cinéma occupé dans le centre-ville de Montpellier. Donc ça sera aussi le 24 février au 13 rue Bousserolles à 20h. Et au niveau des actualités de la CGA, pareil, si jamais vous êtes sur Paris, il y a une conférence, ça sera la semaine prochaine, mercredi prochain. L'anarchisme social, une alternative pour changer de société, de 18h30 à 22h30, donc le mercredi 1er mars, au CIP 21 Terre, rue Voltaire, à Paris, dans le 11e arrondissement.
Donc on vous invite à aller là-bas, voilà, c'est les camarades de la région parisienne qui organisent cette petite discussion, voilà. Puis on espère du coup qu'il y aura quelques retours, peut-être un enregistrement aussi, voilà, qu'on pourrait utiliser nous, et puis diffuser un maximum sur la discussion qu'il y aura du coup à Paris. Et puis du coup, quand même deux petits appels à la grève aussi la semaine prochaine, on les avait pas notés, mais du coup il y a le 7 mars, donc mardi, un appel dans le secteur de la santé, du social, du médico-social, même qui va être rejoint par, je crois, les inspecteurs du travail. Il y a pas mal au niveau de la fonction publique aussi, il y a pas mal du coup d'appels à la grève pour ce 7 mars. Voilà, pour la casse globale de tous ces services publics. Donc je crois que sur Lyon, c'est un appel à une manif qui partira à 14h. Donc à vous de vous renseigner pour savoir un petit peu, voilà, sur son initiative de la CEGET, de FO, de Solidaire, voilà, notamment. Donc voilà, il y a une grosse manif sur Paris, mais il y a aussi du coup une déclinaison locale sur Lyon. Et du coup, il y a aussi une grève pour 8 mars, pour la Journée internationale des droits des femmes. Du coup, voilà. Donc je sais plus, sur Paris, je sais qu'il y a un appel vers 15h, 15h40. Sur Lyon, je sais pas ce que ça donne, mais du coup, voilà, on fera un petit point de tête. Bon, ce sera passé par la semaine prochaine. On fera peut-être un petit point de ce qui s'est passé du coup pendant cette manif-là, enfin en tout cas cette journée de grève possible aussi.
Et pour terminer assez rapidement avec les annonces, on va rappeler qu'il y a les cours de langue tous les lundis, donc à La Plume Noire, au 8 rue Diderot, de 18h30 à 20h30. Et si vous voulez, il y a se passer aussi sur les permanences, donc le mercredi de 17 à 19 et le samedi de 15 à 19. Vous pourrez en profiter, on vous glisse qu'on a relancé la collecte en soutien aux migrants et aux migrantes. Donc si vous avez des accessoires de couchage, des tentes, des duvets, des matelas, des draps, des coussins, de la nourriture, donc des trucs qui se conservent pas mal, surtout tout ce qui va être boîte de conserve, etc. Ou autre, et bien vous pouvez passer nous les laisser à La Plume Noire sur ces moments d'ouverture.
De permanence, voilà.
Voilà. Merci. Et on va continuer, je vais laisser la parole à mon camarade qui a un article à nous lire.
Oui. Alors déjà, je vais vous le retrouver.
Donc, okay. Article qui s'appelle « C'est du racisme imbécile ». Je te gagne du temps, hein.
Ouais.
Je continue.
C'est bon, on l'a trouvé.
Ça ne se voit pas.
C'est bon, j'ai trouvé. Ok, alors, petite intro déjà, sur qui c'est qui fait le... Qui c'est qui parle ? Attention. Et donc, du coup, c'est un texte de Lorenzo Comba Ervin. Alors, pour les gens qui ne savent pas, Lorenzo Comba Ervin, c'est un anarchiste noir américain qui a pas mal bossé sur les questions de racisme, du lien entre l'anarchisme et le racisme, qui a pas mal bossé aussi sur les questions de grève dans les prisons, et qui a été membre de l'IWW ou de la Ligue des travailleurs noirs aussi aux États-Unis. Voilà, donc je vous lis le texte. Réagissant à l'une de mes chroniques portant sur le contrôle aux faciès et la police au Michigan, un blanc radical me reprochera de parler de cette forme de harcèlement policier comme d'un délit de conduite en l'état d'être noir. Étant donné que lui, un blanc, avait déjà été arrêté à cause de ses cheveux longs, il en vint aussi à me dire qu'il faudrait que je me ressente sur les questions de classe, plutôt que sur des simples enjeux liés à la race. Étant donné que je ne voulais pas lui répondre par une lettre personnelle et que je n'avais pas franchement aucune envie d'entamer une fois encore une discussion avec un blanc radical de classe moyenne arrogant, je décidais de le faire dans ma chronique. Je pense que beaucoup de blancs ne comprennent tout simplement pas à quel point cette question est importante, de la même façon qu'ils ne comprennent pas l'impact réel qu'a le racisme sur la vie des noirs dans leur relation avec les autorités et l'État. Des noirs ont été abattus à cause de profilage racial et d'autres formes de harcèlement raciste. Ils sont emprisonnés en grand nombre à cause des conditions de vie médiocres et du manque d'emploi dans ce pays. Des nourrissons noirs sont frappés par une mortalité infantile dans des proportions semblables à celles du tiers-monde faute d'une alimentation appropriée. De plus, les noirs sont obligés de vivre dans des ghettos raciaux et économiques dans lesquels beaucoup meurent de maladies curables ou en souffrent pendant des années. Leurs communautés sont appauvries et sous-développées à cause du refus délibéré du gouvernement de financer des programmes de développement local. En d'autres termes, il s'agit d'un peuple opprimé et non de simples individus harcelés pour leur façon de s'habiller, de marcher ou de se tenir, même s'il ne fait aucun doute que cela peut avoir un rôle dans des cas particuliers. Mais le racisme et les violences policières vont au-delà de l'apparence extérieure des Noirs. Le fait que ce soit le gouvernement lui-même qui protège ses policiers racistes, même quand ils commettent les plus horrifiants des meurtres, devrait nous faire comprendre à tous cela, ainsi que le fait que ce soit un nombre disproportionné de Noirs qui sont tués et pas des Blancs portant la barbe, une queue de cheval ou vêtus de t-shirts bariolés. Ce n'est tout simplement pas la même chose, mon ami. Nous ne sommes pas en train de parler de préjugés personnels d'un stupide blanc qui n'aime pas les noirs, mais d'un racisme d'état structurel, d'une oppression nationale, comme certains sociologues l'appellent, ou encore d'un colonialisme intérieur. Et le policier lui-même n'agit pas comme un individu, mais bien plus comme un agent de l'État, un tueur à gages. Aujourd'hui, tout le monde prétend comprendre cela intellectuellement, mais les noirs subissent la violence dans le monde réel et pas en théorie. Dans toute discussion sur les questions de classe aux États-Unis, l'analyse de la suprématie blanche et celle des inégalités économiques doivent aller de pair. La plupart des radicaux blancs veulent soigneusement classer les questions de race dans une catégorie à part, puis les questions de classe dans une autre catégorie. Nous appelons ça du racialisme vulgaire, car il est totalement déconnecté d'une quelconque compréhension sociale ou politique du problème. La classe ouvrière états-unienne n'a jamais été monolithique. Il y a toujours eu un double niveau économique, des travailleurs opprimés pauvres et de couleur en bas, et des blancs mieux payés et mieux traités en haut, profitant de la misère des premiers. Et je ne parle pas seulement des patrons, comme tant de soi-dits radicaux aiment à le dire quand ils invoquent le mythe d'une prétendue aristocratie du travail. Dans un pays dont l'histoire est faite de génocide racial, d'esclavage racial et d'autres formes d'oppression raciale, c'est du chauvinisme et de l'opportunisme politique de la pire espèce que demander aux gens de couleur de suivre aveuglément quelques mouvements sociaux ou politiques dominés par des blancs pour se libérer. Ceci a été un problème depuis des décennies pour les syndicalistes, les socialistes, les anarchistes et autres mouvements sociaux. Ils ont une compréhension blanche de classe moyenne, de cette oppression de race et de classe qu'ils réduisent à de simples préjugés. Pour eux, le problème consiste à montrer à ces noirs qu'ils n'ont qu'à nous suivre. La figure du héros blanc de la classe ouvrière est une idée véritablement dangereuse, déconnectée de la réalité et glissant elle-même vers le racisme. En considérant l'épidémie des crimes policiers et le fait que le système carcéral est désormais utilisé pour enfermer massivement les noirs et les non-blancs pauvres, refuser d'admettre que cela est produit à cause de l'héritage raciste des États-Unis et parce que ce système capitaliste politique et économique est sur le déclin est une trahison et une fuite face à la réalité. Il est amusant de constater à quel point aux États-Unis la plupart des blancs ont une conscience amenuisée quand il s'agit de racisme. Ils le voient comme un complément de quelque chose d'autre, qu'il s'agisse d'une théorie économique ou d'un dogme religieux. Les questions de rapport de pouvoir interne dont le racisme fait partie sont uniquement focalisées sur un groupe de maîtres de l'économie de Wall Street ou de grands industriels par lesquels nous sommes tous exploités de la même façon. Encore une fois, aucune analyse économique ne saurait être basée sur la seule expérience blanche et européenne. Pas plus que celle des États-Unis d'Amérique en tant qu'État-nation. Pour moi, ça explique en partie pourquoi et comment ils se trompent toujours, en ne servant que d'une analyse mécanique pour tout expliquer. Ça ne prend pas avec moi. Les policiers n'arrêtent pas les voitures de noirs tout simplement parce qu'ils les oppressent, tout le monde de la même façon. C'est du racisme imbécile, sors-toi la tête du cul. Voilà. Voilà pour le texte. Donc, avec une réalité quand même assez américaine. Hein. Ouais, normalement j'ai un petit truc encore à lire. Alors ça c'est...
Ah non, si tu le retrouves pas, je vais enchaîner, c'est pas grave.
Je vais retrouver. On va retrouver. Ouais, alors c'était un simple truc d'article sur le blog de Jao sur Facebook. Donc je vais vous le lire, il est assez court. Hashtag Théo, hashtag Bobigny, hashtag violence policière, hashtag crime policier, hashtag racisme. Donc voilà, on est sur Facebook. Notons que les mêmes personnes qui généralement s'appliquent à trouver des excuses aux violences et aux crimes policiers en cherchant dans le comportement, la vie, le passé d'une victime, voire de sa famille, sont également les mêmes qui, une fois que la révolte venue, adorent s'écrier que rien ne justifie que l'on brûle des voitures. Étonnant donc que ce soit uniquement pour des objets que l'on estime que rien ne peut justifier la violence. Alors que quand la police tabasse, viole ou tue, on cherche des circonstances atténuantes à cette violence. C'est pourtant là qu'on devrait hurler que rien ne justifie un viol, rien ne justifie d'être tabassé, rien ne justifie d'être tué par la police. D'autant plus que ces violences se déploient exclusivement sur les populations pauvres et non blanches des quartiers populaires, et jamais sur les bourgeois blancs, fussent-ils de grands voleurs, violeurs ou criminels. Mais non, on continuera à nous dire, une fois le mal fait par la police, que rien ne justifie de détruire du matériel. Ici, rien signifie noir, arabe, pauvre, de banlieue, etc. Autrement dit, ce n'est pas pour ces personnes que l'on va tolérer de la destruction de biens. La vie de ces personnes ne vaut pas assez pour que l'on considère leurs pertes, leurs souffrances, comme autorisant la colère. C'est tout simplement le sens de ce fameux « rien ne justifie de brûler des voitures » que nous répètent en boucle certains perroquets. Donc voilà, c'était sur le blog de Jao. C'était le 12 février.
Et on va continuer sur l'analyse antiraciste avec un très bon article qui était paru cette fois-ci sur Paris Lutte Info. Pour une solidarité durable et appliquée. Nous sommes des étudiantes et étudiants nés en France ou immigrés, habitants et habitantes de Barbès, issus de milieux populaires. Nous sommes ce que l'on pourrait appeler des racisés ou parmi les premiers et premières concernés. Nous sommes à cheval entre un monde où ceux qui militent ne vivent même pas une fraction de ce qui les pousse à l'action et un autre où l'on vit constamment ce contre quoi on ne parvient à agir que de façon fragmentée ou diffuse. Pour autant, il existe un bon nombre de structures associatives et militantes dans notre quartier. D'interruption de violence, comme les médiateurs de rue de l'Association pour le dialogue ou l'orientation scolaire, d'éducation populaire, d'accès au monde du travail, d'accès au logement et à la nourriture, et d'autogestion populaire, comme des collectifs de sans-papiers et de soutien aux migrantes et aux migrants. La question n'est pas de dire qu'un de ces deux groupes milite plus ou mieux. L'enjeu est de comprendre que chacun et chacune milite sur son terrain. À lire ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux, les quartiers populaires abriteraient une diversité de fausses consciences qu'il s'agirait aujourd'hui de rallier à l'éthos du cortège de tête. Mes frères, nous, ça fait des générations qu'on se bat. Nos arrière-grands-parents ont vu les vôtres arriver chez nous, changer les noms de nos villes, de nos familles. Nos grands-parents ont vu les centres de torture, comme celui du 23 rue de la Goutte d'Or, s'ouvrir des deux côtés de la Méditerranée. Nos parents ont vu leurs cousins en tôle ou abattus par les flics et ont marché de Marseille à Paris pour que leurs parents soient naturalisés. On ne vous a pas attendu pour lutter, on a même dû faire sans. Que faire ? La première tâche est de vous informer sur ce qui existe déjà dans les quartiers dont vous parlez tant. Et quand on dit s'informer, ça veut dire aller sur le terrain. Pas se contenter de lire lundi AM. Ça veut dire rencontrer des gens et comprendre ce qu'il se passe sur le terrain. Comprendre qui agit et où et selon quelle modalité. Ça veut dire travailler avec les gens avec lesquels vous ne serez sans doute pas d'accord, mais avec qui vous avez le droit d'apprendre. La question n'est pas de savoir si vous vous retrouvez ou pas dans les revendications et positions présentes sur le terrain. Vous avez l'obligation, si vous voulez agir chez nous, d'un minima nous connaître. Aulnay, c'est une ville différente de Pantin, qui change grave de Barbès, qui n'a très peu de choses en commun avec la banane. Si vous n'êtes pas au courant des enjeux divers et variés des lieux que vous comptez défoncer à coups de tag et que vous n'êtes pas engagé à mettre au courant, votre parole n'a aucune valeur. Vos initiatives non plus, et vous ne ferez que balancer des bières vides sur des flics qui arrêteront vos contreparties noires et arabes. La deuxième tâche, c'est de rester dans le quartier après la manifestation. Les personnes qui sont sur place sont là après les mobilisations et la répression de ces dernières. Peut-être faudra-t-il les accompagner et les soutenir dans le nettoyage du quartier, dans les débats qui suivent l'action, dans l'émotion qui suit une grosse descente de flics et dans le suivi juridique des personnes inculpées. On a pourtant vu des propos condescendants sur les réseaux sociaux concernant celles et ceux, habitantes et habitants du quartier, qui tâchent de faire ce travail-là. Citoyennistes, apolitiques, savent pas comment faire, sont aliénés. Et vous ? Vous voulez vivre dans un quartier meurtri où ça pue le brûlé et l'humiliation ? Nous, non. Même si nous aimerions être sincèrement anti-citoyennistes, c'est méconnaître les quartiers et les immigrés que de balayer d'un revers de main celles et ceux qui s'engagent pour le respect de leur pleine citoyenneté. Même délire quand il s'agit des appels au calme. Les enjeux ne sont pas les mêmes pour vous et pour nous. Un exemple. Chez nous, on respecte nos darons, on se sent mal quand on crame sa caisse, celle qu'elle a mis des années à se payer. On s'excuse quand on lui fout la frousse parce qu'elle est fatiguée et qu'on ne veut pas en rajouter. On veut lui montrer qu'on est droit, droite et juste parce qu'elle a le cœur brisé de voir son cadet se faire courser par les keufs. Un autre exemple. Je veux bien qu'on soit réjouis que la lutte finale s'esquisse de l'autre côté du périph. Entre-temps, vous pouvez vous imaginer, vous, votre petite cousine de 11-12 ans qui remplit une bonbonne de gaz dans votre cave. Vous pouvez vous imaginer, vous, être son grand frère qui court dans les lacrymos pour la chercher. Vous pouvez vous imaginer ce que ça peut faire de ne pas réussir à la retrouver. Tant que ce n'est pas le cas, calmez votre joie et retournez à votre langue cette fois dans votre bouche avant de chier sur le type qui n'est qu'à moitié chaud quand c'est le feu dans sa cité. Chez nous, on ne fait pas l'émeute. Il y a émeute. Les pavés qu'on enlève, ça leur met des années au service hygiène pour les remettre. Les frères qu'ils foutent en tôle aussi, ça leur met des années à pour sortir. Alors ouais, grosse déterre pour faire l'émeute ensemble, mais à condition qu'on se connaisse, ce qui demande un travail en amont, ou de faire connaissance tout simplement. Venez dans le quartier pour autre chose que pour nous présenter vos condoléances. On a des morts quotidiens. Vous êtes à la bourre. Venez dans le quartier pour autre chose que pour casser du flic. on est capable de discuter aussi. C'est lorsqu'il se passe d'autres choses que le soulèvement est possible. C'est aussi parce qu'il se passe autre chose que c'est un manque de respect de venir que dans les moments de haute tension. Nous, on se connaît entre nous, on connaît les flics, on connaît les associations, on connaît nos rues. Vous, on ne vous connaît pas, par contre. Donc si vous avez du mal à visualiser ce qu'on vous dit, c'est normal, pas de panique. La prochaine fois que vous organisez une manif dans un quartier populaire, allez tracter les gens de marché. Contactez les collectifs et les associations du quartier. Parlez aux mamans à la sortie de l'école, parlez aux petites et aux petits commerçants pour qu'ils, elles, soient au courant. Bref, appliquez les principes d'autogestion et d'autonomie politique. Si vous en avez quelque chose à faire, alors faites quelque chose. L'action directe n'a de sens que si on lui en donne un. Si vous ne lui en donnez que le vôtre, il n'y aura ni convergence ni point d'entente. Nous resterons côte à côte face aux flics, mais des étrangers dans la rue. Sur ce, on va enchaîner avec une petite pause musicale. La première, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter.
Non, je pense que c'est bon.
Non, c'est bon.
Et ben, allons-y donc avec Cumbia Proleta et la chanson A la Huelga.
A la Huelga. Yeah.
Moliendo el esqueleto, moliendo la conciencia, cumbia proleta. La proleta te dedica esta canción, mi vieja goza en el cielo. La huelga madre, yo voy también. Se viene mi pueblo bailando la cumbia.
Re Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours Radio Canu, le 102.2 avec Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Je ne l'ai pas fait avant de passer la chanson. Donc, le groupe, c'était la cumbia prolétarienne en traduction. Et la chanson s'appelait À la Huelga, donc à la grève, avec en gros un appel à la grève générale pendant toute la chanson. Et je laisse la parole pour une petite brève syndicale, si je ne me trompe.
Oui, voilà, donc c'est une brève syndicale sur Solidaire étudiant à Besançon. Donc, des militants de Solidaire ont bloqué le CA de l'Université de Franche-Comté le 14 février 2017. Donc, 19 personnes ont été placées en garde à vue, dont 16 étudiants, une lycéenne et deux militants solidaires de Besançon. Donc ce n'est vraiment pas anodin que ce soit des militantes de Solidaire qui sont déjà la cible de la répression depuis plusieurs années, je pourrais dire. Plusieurs années. Voilà, donc c'était une petite brève pour expliquer ces arrestations.
Ouais, et moi je vais enchaîner sur... Alors je vais vous parler de ce qui s'est passé à Londres. Donc je vais vous parler de la BEC... Alors je vais essayer de le dire correctement. La Peckham Pride à Londres. Donc alors en fait la Peckham Pride c'est déjà ce qu'il faut savoir c'est que la Peckham Pride c'est un quartier Peckham à Londres qui est plutôt populaire, c'est-à-dire qu'ici ce serait peut-être l'équivalent de la Guillotière, je pense, quelque chose comme ça. Et donc ce qui s'est passé c'est que le samedi 18 février il y a eu une Pride, donc une fierté LGBT qui s'est organisée. Donc cette année c'était la deuxième marche. Elle était co-organisée par LGSM. Alors pour les gens qui connaissent pas trop, LGSM c'est le même nom qui a été utilisé. Historiquement, LGSM c'était un groupe qui était Lesbian and Gay Support the Minors. On peut le voir dans le film Pride, dans lequel en fait c'est un groupe de lesbiennes et gays qui font un soutien à des mineurs et des grévistes et qui créent une solidarité. Et ici ils ont pris le même nom pour à la place appeler et s'appeler Lesbian and Gay Support the Migrants. Donc voilà, donc lesbiens et gays supportent les migrants. Donc ensuite, il y a eu un autre mouvement qui a appelé à cette manifestation. C'était le mouvement pour la justice par tous les moyens. Et Sister Uncut. Alors pour Sister Uncut, pour les gens qui ne savent pas, c'est une association de femmes et de personnes non binaires qui sont sur des questions de violence masculine. Voilà. Et donc ce qui s'est passé, il y a eu donc une manifestation qui a été principalement faite contre le régime migratoire qui est en Angleterre et partout dans le monde. Donc il y a eu un repas communautaire qui s'est organisé à 10h avec pour connaître ses voisins, rencontrer des personnes et faire des bannières. Ensuite à midi, il y a eu le début de la marche. Donc ça a été dirigé par des demandeurs d'asile, des personnes qui ont déjà été détenues en centre de rétention et qui sont des personnes LGBT et queer. Et des groupes de migrants, de personnes qui ont résisté à des raids de l'immigration, etc. Donc il y a eu plus de 2000 personnes qui étaient là-bas, donc c'est plutôt cool, avec des slogans assez radicaux et on va dire plutôt proches de l'anarchisme quand même, hein, comme la solidarité queer écrase les frontières. Donc ils avaient fait un banner drop, on a pu voir à l'élection de Donald Trump, avec pas mal de couleurs. Pas de fierté dans les frontières. Pas de frontières ni de nation, arrêter la déportation, pas de frontières dans la santé. Et il y avait aussi un groupe a priori anarchiste juif qui avait pour une bannière marquée fuck les racistes et les Judas, abat la police, donc Daloy Polizei en yiddish. Voilà. Et il y avait aussi le slogan Every place, every race, put a Nazi in the face. Donc c'est-à-dire.
Ça c'est beau.
Alors traduction, ça veut dire tous les endroits, toutes les races tapent un nazi dans la face. Voilà. Donc c'est, moi je trouve c'est un hymne plutôt intéressant et assez internationaliste. Donc voilà. Donc c'était une bonne manif en tout cas qui a eu le mérite de montrer déjà que oui, il y avait des migrants qui sont LGBT et que bah, la politique migratoire a aussi une influence partout et que partout les frontières nous enferment et les nations aussi, on les fera tomber. Voilà.
Eh bien, je te remercie. On va enchaîner avec la première partie des luttes sociales.
Allez, des luttes sociales, eh bien, je vais vous en donner quelques-unes encore pour cette semaine. Donc, on va aller dans la Marne, à Bézanne exactement, avec une solidarité envers une éducatrice qui est visée par un licenciement.
Ça nous vient de l'association La Sauvegarde pour l'aide aux mineurs. Une centaine de personnes se sont rassemblées donc à l'association même pour faire flancher la direction qui reproche à cette éducatrice salariée des propos diffamatoires. Alors, quel propos ? Elle a tout simplement alerté, suite au décès d'un jeune Malien, les conditions, donc dénoncer ces conditions indignes réservées à ces jeunes gens mineurs étrangers isolés. C'était le 6 janvier dernier, ce jeune Malien s'était jeté du 8e étage d'un foyer à Châlons en Champagne. Donc, conditions également désastreuses, dénoncées par RESF de Châlons-sur-Marne, donc dans le 51. L'éducatrice est déléguée également du personnel, Sud Santé Sociaux. Je vous invite à aller voir l'article beaucoup plus complet et très long sur le site Coordination Urgence Migrants, Grand Lyon, Rhône et Roannais. Voilà, qui relate donc ces faits qui se sont passés dans la Marne à Châlons-sur-Marne. À Pau maintenant, c'est l'université de Pau, donc avec le personnel BIATS, B-I-A-T-S-S, qui est en colère, donc ce personnel. Alors qu'est-ce que les BIATS ? Eh bien, c'est les agents personnels des bibliothèques, ingénieurs, administrateurs, techniciens, techniciennes des services et de santé. Voilà, vous savez tout. Donc, tout ce personnel dénonce un désastre dans leurs conditions de travail. Avec les enseignants et les enseignantes, ils et elles ont investi le 9 février dernier le conseil d'administration pour protester, notamment contre les heures supplémentaires non payées. La pression, le stress, ça craque un peu de partout là-bas. Il y a des arrêts maladie à gogo, du mal-vivre également. Donc tout ça est dénoncé. Alors que le nombre d'étudiants augmente et d'étudiantes, le personnel, lui, il diminue. Exemple, 32 demandes de poste, 10 ouvertes. Chez les enseignants, 51 demandes, 5 retenues. 83 postes demandés, 15 honorés. Quant à la direction, elle feint d'ignorer les revendications des personnels et même est même hostile à toute requête des travailleurs et travailleuses. Mais qui se gousse quand même cette direction d'avoir embauché un médecin pour, devinez quoi, traiter les troubles psychosociaux. On aura tout vu. Donc maintenant, dans le Pas-de-Calais, à Arras, avec 90% de grévistes au service des urgences du centre hospitalier donc de la ville, réquisition évidemment des infirmières et aides-soignants et aides-soignantes, épuisement qui est à l'ordre des revendications, conditions de travail, la direction relativement bien reposée, elle promet un effort, donc un seul effort, et dans l'année. Adèle, dans le territoire de Belfort, c'est une charmante bourriade, franc-comtoise, qui a son lycée pro, qui est en effervescence. Alors pourquoi ? Eh bien, la suppression d'une section d'apprentissage, une de plus, qui met vraiment la colère. La section CAP, peintre applicateur de revêtement, donc qui devrait disparaître. Le 6 février dernier, la grève était en place. Les enseignants, les enseignantes, le personnel également non enseignant, mobilisés pour les 24 élèves donc, de cette section CAP constituant, donc voilà cette section. Deux postes d'enseignants également devraient disparaître. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement, c'est que l'éducation nationale, la région, ont décidé et jugé un manque de perspective d'emploi dans la filière. Mais par contre, là, le patronat de la restauration du coin a besoin de viande fraîche, j'allais dire. Y aurait-il un os dans le beefsteak ? C'est la question qui se pose au sein du lycée aujourd'hui. Autre chose, c'est à Langres, dans la Haute-Marne, avec l'établissement Freudenberg. C'est un fabricant de joints.
Quel était ce regard là ?
Joint d'étanchéité pour l'industrie automobile. C'est un équipementier auto, quoi, autrement dit. Donc il y a 75 salariés qui étaient en grève sur 90, avec comme aide ici le syndicat EFO qui est majoritaire dans cette entreprise. Les entrées étaient bloquées partiellement. Les expéditions des produits ne l'étaient pas, par contre. Alors, quelle est la cause de ce courroux? Eh bien, ce sont les salaires qui n'ont pas vu la copine augmentation et les conditions de travail depuis longtemps. Alors, les conditions de travail idéales, ben, on peut dire que là, il y a un gros point d'interrogation qui se pose. Et je dirais même plus que ça n'existe pas. Dès lors qu'une entreprise fait des bénéfices, ben on peut croire à un partage, et ben c'est de la pure fiction, puisque le patronat en a une autre vision, c'est de récompenser les actionnaires, par exemple. Le syndicat FO exige, ou plutôt négocie, une réévaluation des salaires à plus de 30 euros en avril, 30 euros en plus en septembre, et ben il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ben, ça a fait flop, hein, tout ça. Donc, lors d'une entrevue de plus, eh bien, les chiffres ont changé, puisque là, ça avait un petit peu augmenté quand même, puisque c'est plus 30 euros, mais plus 100 euros brut par mois, et une prime de vacances à 500 euros, qui est à 120 euros aujourd'hui, une prime de performance à 150 euros par trimestre, une prime d'ancienneté à 30 euros par trimestre, un dégrèvement de moins 10% en cas de maladie, alors qu'aujourd'hui, il est à 20%. À cette date, eh bien, les négociations, le dialogue était au point mort. Et en décembre dernier, eh bien, et quand je dis au point mort, c'est au moins au point mort bas, c'est-à-dire quand c'est complètement bas. Et quand c'est au point mort haut, on est d'accord, c'est là que ça explose.
C'est ça.
Hein, tout à fait. Hein, je ne me suis pas gouré.
Non, non.
Les habitudes. Donc en décembre dernier, les négociations avaient été gratifiées d'une augmentation de 1% et une prime individuelle de 0,8%, soit 17 euros par mois, royal, même, qui n'a même pas été tenu d'ailleurs par cette même direction. Je vais vous dire dans quel état on est un peu partout en ce moment, quoi. Voilà pour cette première page de lutte sociale. Il y en aura une autre après, je pense.
Tout à fait, on va essayer, mais on va même le faire. Du coup, si je ne me trompe pas, c'est à toi de reprendre la parole, tout à fait, avec cet article que tu me montres depuis tout à l'heure. Tu vas enfin pouvoir le lire.
Oui, voilà, donc c'est un article...
Je vais prendre le micro. Voilà, merci. C'est un article sur...
Le micro avant aussi.
Sur en Arkansas, donc aux États-Unis. Bientôt les hommes pourront empêcher les femmes d'avorter. Donc s'il est le père potentiel d'un fœtus, chaque habitant de l'état du sud des États-Unis pourra faire annuler l'avortement ou demander réparation financière. Mmh. Selon une loi signée fin janvier dans l'état américain de l'Arkansas et qui devrait entrer en vigueur au cours de l'année, un homme pourra empêcher sa femme à avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, rapporte Terra Femina. Tout époux présumé être le père du bébé à naître pourra obtenir une injonction imposant l'annulation de la procédure. Le géniteur aura aussi la possibilité d'attaquer en justice le médecin en charge de l'avortement et de réclamer des dommages et intérêts. La loi sera également applicable en cas de grossesse qui serait les conséquences d'un viol conjugal. Donc 6 États américains sont concernés par cette loi. Pour les patientes mineures, au moment de l'intervention, ses parents ou tuteurs légaux auront aussi le droit de poursuivre l'équipe médicale. Le texte, mis en place il y a 2 mois par les autorités législatives républicaines en Arkansas, interdit par ailleurs la méthode dite de dilatation et évacuation, pourtant reconnue par l'Association médicale américaine comme la plus sûre après les 14 semaines. La branche locale de l'American Civil Liberties Union de l'Arkansas, donc l'ACLU, a annoncé son intention de s'opposer à cette nouvelle loi. Un texte similaire avait été voté dans 6 États américains et a été contesté dans 4 d'entre eux, la Louisiane, l'Alabama, le Mississippi et la Virginie occidentale. À chaque fois, les tribunaux ont annulé la nouvelle législation.
Ok, eh ben, je vous propose d'enchaîner avec une seconde pause musicale. Juste le temps que... Je la lance avec le groupe Ancrage, c'est un groupe de rap, la chanson s'appelle « Les morts n'ont pas tous la même peau ». C'est parti. We'll be right back.
fait battre avec les porcs. Passe l'arme à gauche, cœur nous gifle, que l'homicide réchauffe. Si la démence nous frôle, au lance-flamme redessine l'hexagone. Ce qui pousse à la course, c'est pas la frousse sur ma vie, c'est la mort aux trousses, le compte à broker quand un flic te poursuit. Des heures sans jamais trouver le sommeil, je crois en l'enfer pour qu'à jamais il veille. Consciemment il tue, si la nuit ouvre les yeux, c'est que le feu est dans la rue. Un flic c'est pas le chétan, c'est juste un français, un fils de pute. La légitime défense tire des balles dans la nuque. Poto, les morts n'ont pas tous la même peau. La scène, un cimetière, ta race, sale guerre. Et si le temps passe, il n'efface pas tous ces morts qu'on yeux réverbère. Tu crois que je parle seul, mais le bon vieux Jameson m'a donné toutes les clés. Cherche les trésors dans le papier d'aluminium. Revois les frères et sœurs, tu entends les sifflements de tueurs le soir, ou peut-être leur voiture roulée au pâle en main. Des caresses sur le chien d'une arme, des nuages de monstres et leurs promesses de drive-by. Métal hurlant, crache les douilles, tombe en rythme. Coup de feu te font léviter dans les bras de la ville. Arroser le sol de tout ce liquide. Et un homme mort qui marche me dit, les porcs vont venir par bateau. Les porcs font partir une balle dans le dos. Les morts n'ont pas tous la même peau. Les larmes brûlent les joues, mais ma haine les brûle tous. La foudre sur leurs mains blanches, le métal hurle sur la tempe. Les cris les crosses, la nuit serre les crocs. L'homme mort m'a dit, les morts n'ont pas la même peau. La poudre sur leurs mains blanches, le métal hurle sur la tempe. Les cris les crosses, la nuit serre les crocs. L'homme mort m'a dit, les morts n'ont pas la même peau. Ils m'ont dit, calme-toi, tu veux un cachet, un gramme. Le gosse m'a dit, toi, donne-moi de la poudre et des balles. Ça reste viscéral, s'il y a une gorgée pour chaque mort. Sur le bitume coule des rivières de collal. La République pleure, c'est tonton ma coupe. Qu'elle aille se faire foutre, t'apprends droit chemin. Coup de matraque dans les genoux, chouf. Si on mais on joue, je sais que tu t'en parles l'autre jour. Plein jour ou infrarouge, Bélec si tu l'ouvres, ça se règle direct, coup de genou dans la bouche. Couche photo, les morts n'ont pas tous la même peau. Les morts n'ont pas tous la même peau. Les morts n'ont pas tous la même peau.
Rebonsoir à toutes et à tous, désolé pour la manière de couper la musique un peu dégueulasse, hein. On fera mieux la prochaine fois et on va repartir sur une deuxième partie de lutte sociale.
Allez, en partant dans les Ardennes, à Charleville exactement, avec une manif encore solidaire devant la gare SNCF, et qui concerne des personnels du centre ligne direct, qui est en fait une plateforme téléphonique d'information aux usagers, usagères. Donc fermeture imminente de cette plateforme, eh bien, qui verra 15 personnes, dont certaines sont en situation de handicap, eh bien, aller pointer, je pense, à Pôle emploi. Il y a des propositions de la direction qui a laissé quand même un tantinet dubitatif les salariés et leur soutien quant au véritable rôle des nouveaux postes. Il n'y a rien de vraiment sûr. Et où ils seront créés exactement, parce que si ça pète à Louchnerf, hein, je vois pas l'intérêt, quoi, en fait. À Saint-Denis, maintenant, dans le 93, c'était le 8 février, avec une grève de travailleurs municipaux du service des fêtes. Plus de fêtes, donc, à Saint-Denis, si, quand même, vous allez voir, puisque la mairie a, on dirait, sauté sur une occasion en or pour dissoudre, donc, ce service, avec la découverte, dans le local technique municipal, de 500 kilos de cannabis. Ce qui a mis, donc, le feu aux poudres, si j'ose dire, évidemment, parmi la vingtaine de salariés qui s'estiment victimes dans cette affaire et qui accusent la mairie d'avoir comme projet la privatisation de l'organisation des fêtes sur la ville, qui est quand même forte de 100 000 habitants, hein, Saint-Denis, en 93. Donc le syndicat FO est dans le coup, enfin plutôt dans le coup de la grève, hein, bien entendu, avec syndicat Sud et CGT. Quant à la mairie, donc PCF, hein, elle invoque des dysfonctionnements du service et annonce un nouveau service événement. Redimensionné, allégé en personnel, les agents pourront toujours postuler, voilà, donc il est question d'une boîte spécialisée dans l'événementiel, tout comme évidemment le service gardiennage qui récemment a sauté, invoquant que les anciens gardiens n'avaient pas le profil pour la fonction demandée pour assurer le visionnage vidéo. Donc la vingtaine d'agents en place a été suspendue quand même pendant 2 mois, alors que les responsables de ce dépôt de fleurs odorantes, j'allais dire, avaient été quand même arrêtés, et du moins une personne avait été arrêtée et 2 révoquées. À Vernouillet, maintenant dans les Yvelines, en début de mois, donc ce laboratoire, c'est le laboratoire Cepartex, une grève des opérateurs et des opératrices, une quinzaine de personnes ont bravé une ambiance qui n'est pas à la lutte pour une revalorisation de leur salaire et dénoncer les écarts dans les rémunérations. Exemple, un salarié avec de l'ancienneté forme un nouvel embauché payé plus cher que lui. Alors ça fout la gerbe, évidemment. La CGT, la CFDT sont sur le coup et exigent des valeurs socles pour les salaires. 1 845 € bruts pour les opérateurs et opératrices et 2 100 € bruts pour les techniciens et techniciennes. C'est en négociation. La grève se poursuivait. Équipe de jour, équipe de nuit et 15 jours de grève au 15 février. Et puis on recommençait le 16. Et puis ensuite, c'est le syndicat FO qui a rejoint cette lutte. Et donc pour terminer, là, c'est à Saint-Louis en Alsace, dans le Haut-Rhin exactement, avec l'entreprise Trench. C'était le 16 février exactement. La direction, elle délocalise l'activité. C'est des réducteurs de mesures. 87 suppressions de postes, grève une centaine de personnes au début. Il y a eu un appel de la CGT. Des barrages filtrants ont été installés sur la route pour les grévistes et non-grévistes. C'est une erreur monumentale que cette délocalisation. Ils exigent le retrait du projet. La mise en place de négociations sur le devenir de la société, donc sur le devenir de leurs emplois. La production serait envoyée en Italie où, en fait, rien n'est prévu au niveau de l'outil de production et du personnel. Donc voilà, encore un joli coup d'arnaque à Saint-Louis, en Alsace. Voilà pour ce qui est de ces luttes ce soir.
Eh bien, merci. On va enchaîner... Avec quelques brèves ou avec ça d'abord, qu'est-ce que c'est que tu me montres? D'accord, eh ben vas-y.
Donc oui, voilà, c'est à Marseille, donc il y a eu la profanation de la stèle de Misak Manoukian. Donc certains le connaissent grâce à l'affiche...
Rouge, c'est ça, oui.
L'affiche rouge, oui.
LFTP Marie.
Donc nous descendons, nous... Oula.
Ah, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez peut-être nous dire qui c'est.
Donc c'était, justement, je vais l'expliquer, c'était un résistant arménien pendant la Seconde Guerre mondiale contre le nazisme et le gouvernement de Vichy qui a été, qui était le leader de cette branche résistante et qui a été fusillé et qui a servi, dont l'affiche a servi vraiment, a été vraiment très connue et qui a servi vraiment d'exemple contre la résistance. Donc nous dénonçons, donc il y a eu profanation de la stèle de Misak Manoukian. Nous dénonçons la lâcheté des auteurs de cet acte odieux qui vise à salir la mémoire de tous celles et ceux qui, durant la Seconde Guerre mondiale, se sont levés pour lutter contre la barbarie nazie et défendu leur idéal d'une société où l'être humain serait au cœur de toutes les préoccupations, tandis que la plupart des possédants de l'époque avaient choisi la collaboration pour préserver leurs avantages. Parmi ces résistants et ces résistantes et résistants, de tous horizons et de toutes religions, beaucoup étaient membres du Parti communiste et de la CGT, et nous ont transmis en héritage leurs valeurs de justice, de solidarité, de paix et d'égalité. C'est à partir de ces valeurs que nous continuons aujourd'hui leur combat, dans une période où, pour protéger ses intérêts, le capitalisme exacerbe toutes les tensions, opposant ceux qui, parmi le peuple, auraient intérêt à s'unir pour changer les choses, créant ainsi les conditions de la montée des idées d'extrême droite, garante de la sécurité des exploiteurs. Face à cela, nous devons être unis et déterminés à faire reculer les idées de haine, de racisme, de rejet, de l'autre, qui ne servent jamais la cause des peuples.
Mais ça, c'est un communiqué de la CGT.
Oui, voilà.
De la CGT Marseille, c'est ça ?
Bouches-du-Rhône.
Bouches-du-Rhône.
Eh bien, puisque personne ne prend la parole, je vais enchaîner avec un autre communiqué de la CGT complètement différent. Cette fois, communiqué de la CGT Éducation 93. Ce sont nos élèves que la police agresse. Ouais, alors on change complètement de sujet d'un moment à l'autre, là. Hein. Au-delà de l'agression de Théo par ses 4 policiers, c'est la violence quotidienne de la police qui est dénoncée au travers de toutes les manifestations de ces derniers jours. Cet événement est un rappel pour toutes celles et ceux qui vivent dans un quartier populaire que les jeunes, nos élèves, nos enfants, issus ou pas de l'immigration, sont en danger. non pas du fait d'une guerre, non pas du fait des délinquants, mais du fait de la police. Parce que les jeunes des quartiers populaires sont systématiquement contrôlés, fouillés, stigmatisés par les pouvoirs publics. La CGT Éducation 93 dénonce un État qui est de plus en plus sécuritaire. De Zayed et Bouna, morts en 2005 à Clichy-sous-Bois, des arrestations arbitraires lors de la loi travail jusqu'à aujourd'hui, la police est constamment dédouanée de ses actes. Il ne s'agit pas d'une bavure, mais bien d'un système de gestion de la misère. L'agression de Théo montre encore une fois que la police a tous les droits face à la justice. Certes, la justice ne s'est pas encore prononcée, mais à la lecture des premiers propos du parquet et l'expérience des différentes affaires de violence policière, nous ne pouvons que nous inquiéter de l'issue de cette affaire.
Ouais, et moi je vais vous parler assez vite de ce qui s'est passé aux États-Unis encore. Donc déjà, il y a eu une journée de grève qui s'est passée, donc pour montrer à, en tout cas à Trump, alors moi je dirais pas qu'à Trump, hein, mais parce qu'il y a beaucoup d'électeurs quand même, mais ce que serait une Amérique sans immigrés. Et donc du coup, il y a eu la journée dite sans immigrés, qui a été organisée le 16 février aux États-Unis. Et donc toutes les personnes d'origine étrangère s'étaient appelées à faire grève, donc une grève sociale et économique, hein, pour mettre en lumière le rôle qu'elles jouent dans la société, dans l'économie du pays. Et ça a été plutôt bien repris, et ça a pas mal marché, en tout cas, de ce que j'en ai vu. Et en tout cas, on espère que ce sera pas la seule grève qui se prépare, parce qu'il y a une grève générale qui est appelée... une grève majoritairement de femmes en tout cas, mais qui est appelée en tant que grève générale le 8 mars aussi aux États-Unis, toujours par le groupe qui était organisé par le Women's March. Voilà. Donc on espère que dans ce climat raciste et dégueulasse, qu'il y aura une bonne petite résistance.
Ouais. C'est à toi, effectivement. Et effectivement, c'est ça. Moi, enfin, pourtant, on s'est bien préparé ce soir et on arrive quand même à avoir des petits cafouillages, mais c'est pas grave, on continue.
Là, voilà, moi c'est pour vous parler ce qui s'est passé donc sur l'affaire de Drancy, donc sur le viol, donc pas Théo, mais qui est plus ancien, qui me semble, hein, qui date d'un an avant. Je sais plus exactement.
C'est toi qui as les infos là.
Ouais, donc voilà. Contrairement aux ceux exprimés par le tribunal correctionnel de Bobigny, le parquet de Bobigny a fait savoir le mardi 21 février qu'il s'opposerait à la requalification de viol des faits pour lesquels est poursuivi un policier municipal de Drancy. En vue des certificats médicaux présentés par la victime faisant état d'une pénétration anale, les faits sont de nature à entraîner une requalification criminelle, avait estimé lundi la présidente de la 14e chambre du tribunal correctionnel de Bobigny, demandant un renvoi aux assises. Si la clémence de la justice envers les policiers qui violent et assassinent éclaire la manière dont les juges et procureurs apportent eux aussi leur soutien aux policiers inculpés, la solidarité sournoise des médias ne saurait être trop soulignée. Car au-delà de la qualification juridique, celle du discours journalistique n'est en rien innocente quant à l'impunité quasi systématique des violences et crimes policiers. Face à la gravité de la situation, de nombreux articles ont certes parlé d'agressions violentes, le réflexe bien ancré dans la profession... la violence des pratiques policières a cependant largement imbibé le traitement de l'affaire Théo. Le Parisien, France Soir, BFM TV, LCI, L'Express ont notamment eu la délicatesse de parler d'interpellations musclées pour les journalistes comme pour les politiques. Lorsqu'il y a dérapage entre guillemets de la part, ce sont des accusations toujours entre guillemets de la part des victimes et exceptionnellement un chef d'inculpation. Lorsque le mot est prononcé, ce sera donc très souvent entre guillemets, donc comme je l'ai dit depuis le début, et la présomption d'innocence d'être scrupuleusement respectée jusqu'à l'absurde, ce sera entre guillemets toujours selon la victime ou son avocat qu'il y aura viol, et aucun rapport médical, aussi accablant soit-il, ne saura remettre en question la prudence des journalistes. Car sur l'embarrassant, entre guillemets toujours, débat juridique concernant la nécessité d'une, voilà, entre guillemets toujours, parce que c'est très important, intentionnalité du viol pour qualifier le viol, les médias ont pour la plupart choisi leur camp, celui de l'IGPN. La pénétration forcée, et pour une dernière fois entre guillemets, non intentionnelle, n'est pas un viol.
Oui, ça me rappelle ce qu'a dit justement le chef de la... C'était un ancien chef de la police, c'est ça, qui avait dit qu'il faut donner l'amour à...
Le chef actuel
C'est le chef actuel qui avait dit qu'il fallait traiter la police de la même façon. il fallait traiter la police de la même façon dont elle nous traite.
Voilà, en gros, il fallait respecter la police de la même manière qu'elle nous respecte.
Voilà, donc la question est de savoir, c'est un appel à quoi ?
Ouais, c'est ça.
Voilà. Est-ce qu'on a encore un petit peu d'infos là ?
On a encore, mais il me semble que là, on n'a pas tout à fait fini sur là-dessus. On devait enchaîner avec autre chose.
Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà. Donc, après, bon, à mon avis, il faudrait pas trop remuer la merde quand même parce que.
Oh, ça.
Ah non, mais c'est sûr, parce que. Voilà, j'ai retrouvé la citation du policier d'Alliance, hein, donc.
Elle est différente celle-ci. Hein,
oui, elle est censée, c'est censé être un syndicaliste. Hein, je mets entre guillemets, voilà, de FO, non pas de FO, désolé.
Alliance.
Même si FO a des syndicats de flics bien dégueulasses aussi, qui disait, il ne pouvait pas imaginer que les policiers se soient livrés volontairement à un acte aussi abject. Voilà. Bon, après c'est pas très étonnant venant d'un syndicat policier. Ou
il n'a pas beaucoup d'imagination, quoi.
Ouais, voilà. Voilà.
Pas besoin d'en avoir tellement en même temps.
Oui, pour non, ouais, mais... quand même. Non, c'est sûr. C'est sûr. Et puis quand on voit à peu près toutes ces. En tout cas, la montée du racisme, que ce soit aux États-Unis, ou que ce soit en France, ou que ce soit ailleurs, dans toute l'Europe, ou même partout. Hein, c'est, en tout cas, moi, je trouve ça assez encourageant de voir les ripostes qui sont faites et de voir que, bah, on se laisse pas faire et que les gens ne se laisseront pas faire et ne s'arrêteront pas, quoi.
On enchaîne avec quelques. Autres petites brèves, il me semble qu'on en a encore avec un truc là qui fait un peu chaud au cœur pour une fois en Espagne, à Barcelone, la semaine dernière. Une manifestation a quand même accueilli, selon la police, donc c'est important de dire, 160 000 personnes sous les mots d'ordre, nous voulons accueillir les migrantes et les migrants. Donc bah, ça fait plaisir. Hein. En gros, pour faire court sur ce qui s'est passé là-bas, la ville de Barcelone n'a accueilli pour le moment que 1100 migrants, alors qu'ils avaient promis d'en accueillir 16 000. Et du coup, eh ben, c'est la population donc de Barcelone qui a manifesté en grand nombre dans les rues là pour dire que ben ils voulaient accueillir ces migrantes et ces migrants et qu'ils comprenaient pas pourquoi ça avait toujours pas été fait. Donc je trouve ça quand même vachement classe.
Ouais, non, c'est sûr.
Pour le coup.
C'est sûr.
C'est important de le dire parce que c'est rare quand même qu'on ait des infos comme ça.
Ouais, pour une fois,
ça fait plaisir. Ce 160 000 personnes, ça commence à faire du monde.
Ouais, non, c'est... surtout selon la police.
Ouais.
Oui, c'est ça.
Il y avait aussi un petit truc aussi, je pensais. Il y a eu dernièrement, il y a eu des cimetières qui ont été profanés à Saint-Louis, aux États-Unis. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont renversé en fait les tombes. Donc, on suppose que c'est un acte antisémite assez clair.
Des cimetières juifs.
Ouais, c'est ça, c'est un cimetière juif, oui. Et donc ce qui s'est passé, c'est que bah, bien sûr ça a été perçu comme un énième acte antisémite, bien sûr. Et il y a eu une réponse qui a été assez intéressante, qui a été faite de musulmans qui appelaient justement à faire une solidarité financière pour remettre les tombes en état. Et il y a eu plus de 20 000 ou 40 000 je crois dollars qui ont été donnés par un groupe de musulmans pour ça en tout cas. Et là aussi bah, je trouve que c'est intéressant aussi, ouais, de montrer que bah, face aux attaques islamophobes, antisémites et racistes, ben, l'union elle est possible et que c'est à nous de la construire au quotidien.
Voilà.
Voilà, et ben écoute, si vous voulez, je vous propose qu'on puisse arrêter là-dessus ou si quelqu'un.
Mais pile à l'heure.
Je vois qu'on a encore un tout petit peu de temps vu qu'on a commencé avec une ou deux minutes de retard
et que notre
confrère de la lumière du frigo n'est pas encore là.
On peut faire un petit rappel de ce qui
est. Des annonces, déjà.
Des annonces, ouais.
Eh ben, allons-y. Je te laisse la parole en premier.
Je vais rappeler donc ce que j'ai dit en début de l'émission. C'est le jeudi 23 février, où on vous invite, comme toujours, à écouter Mégaphone hein, sur Radio Canus. C'est le deuxième, le quatrième et cinquième jeudi du mois, dans l'émission La Petite Cuillère. C'est à partir de 20h à 21h. C'est une diffusion de messages aux prisonniers, aux prisonnières de la région. Alors, bah, comment se servir de ce communicant quand même précieux pour ceux et celles qui sont privés de liberté ? Eh bien, il faut aller un peu sur Rebellion. Vous avez tout le descriptif. Je ne vais pas dire que c'est un peu particulier, mais enfin, il faut téléphoner, laisser son message, etc. Donc, vous voyez ça sur Rebellion. Ce jeudi également, il y a un appel à 14h des Pandards et de La Ruche, donc ces deux associations de quartier dans le premier arrondissement de Lyon, là, sur les pentes. Donc, association qui n'est pas morte, hein, puisqu'elle vous invite à une contre-visite de l'espace d'hiver qu'elle occupait, cette association, il y a encore quelques mois, pour des activités de ses activités de jardinage, entre autres. Donc, cet espace Colombe s'en est servi et spécule sur le patrimoine lyonnais, privant donc les Lyonnais et Lyonnaises du premier arrondissement d'initiatives jardinières et plus. Je confirme aussi qu'il faudra voir sur Rebellion, hein, à propos de cette activité, mais enfin, vu qu'elle y était encore aujourd'hui, je pense qu'elle sera maintenue. Bon, ouais. Le vendredi 24 février, donc, c'est un rendez-vous place des Terreaux à 20h pour un deuxième goûter anniversaire. Même à 20h, on peut goûter aussi, hein, pas de problème.
Hein. Toutes les heures.
Donc, deuxième anniversaire, c'est pas pour le fêter, évidemment, hein, c'est l'état d'urgence prolongé, voilà. C'est par l'ENS, collectif ENS, hein, les écoles normales supérieures. Ce rendez-vous se veut donc festif, ironique, joyeux, pacifique et pâtissier. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, donc, parce qu'il y aura des gâteaux, des bonbons à boire aussi.
Bon, voilà.
Et puis, il y aura à communiquer aussi grave sur cette situation. Et là aussi, il y a un communiqué qui est passé sur Rebellion, que je vous conseille d'aller lire, qui nous rappelle un peu tout ce qui est les méfaits de l'état d'urgence. Voilà, pour ce qui est des annonces.
Pour rappeler aussi, c'est que vendredi, il y a projection à la Plume Noire. Donc ça nous est directement...
Voilà, alors t'as voulu faire... Et il s'appelle comment le film ?
Je sais plus.
Et voilà.
Je sais qu'il y a projection à la.
Fallait pas couper la parole.
Bah.
Non, t'as l'air malin. Alors, le film, c'est Clandestin, d'autres vies que les vôtres.
C'est pas un film, c'est un documentaire.
C'est un documentaire d'ailleurs, oui. Un documentaire sur les luttes de travailleurs sans papier. Donc, vendredi soir à La Plume Noire, au 8 rue Diderot, à partir de 19h.
On vous y attend.
Apéro, on vous attend.
Derrière, hein,
aussi. Oui, oui, bien sûr.
C'est une projection et débat. Et c'est organisé par la Com Antiraciste et la Com Syndicale. Voilà.
Pour terminer sur le rappel des annonces, donc il y a aussi les cours de langue le lundi soir de 18h30 à 20h30 à La Plume Noire. Les permanences, bien sûr, les mercredis de 17h à 19h et les samedis de 15h à 19h. Et on en profite pour vous dire que si vous voulez passer pendant les permanences, déjà pour nous voir, pour passer à la librairie, ou aussi pour éventuellement ramener des dons pour la collecte pour les migrantes et les migrants, eh ben, ça sera le moment.
Voilà.
Et voilà.
Généralement des vêtements, des choses comme ça.
De la bouffe périssable.
Voilà, parce que ce qui se passe souvent, c'est que souvent des personnes qui viennent à La Plume, par exemple, pour les cours de langue, qui sont des personnes qui sont déboutées de tout droit, qui sont des mineurs déboutés qui ont actuellement zéro droit, en fait. Et donc, du coup, ils n'ont pas accès à tout un tas de ressources de solidarité qui sont données par l'État quand ils ont des droits. Donc, voilà. Donc, c'est hyper important d'avoir une solidarité aussi à la base qui se fait.
Voilà. Et je terminerai en parlant de solidarité. Si vous êtes dans le sud, du côté de Montpellier ce week-end, le 24, donc concert et soirée de soutien à La Plume Noire au Royal Occupé, donc un grand cinéma occupé en centre-ville de Montpellier, au 13 rue Bousserolles. Ou sinon, sur Paris, mercredi prochain, une conférence appelée L'anarchisme social, une alternative pour changer de société. Donc le 1er mars, au 21 Terre rue Voltaire à Paris, dans le 11e arrondissement. Et
tout ça,
je crois qu'on a fini par la CGA.
Ouais.
Et voilà.
Bon, merci de nous avoir écoutés. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonne soirée à toutes et à tous.
Et à la semaine prochaine.
Et un petit jingle.
À mercredi prochain. Au revoir.